En fait, c'est un vieux passeport qui est périmé, mais j'en ai un autre. Puis j'ai amené celui-là parce que je veux pas perdre mon vrai, parce qu'il est vraiment précieux. Il me donne des privilèges importants. Et justement, un passeport, c'est une preuve de citoyenneté qui est particulièrement utilisable et utile quand on est à l'extérieur de notre pays. Et ce matin, c'est ça, le thème de notre message dans Philippiens, c'est « Vis ta nouvelle citoyenneté ». On est rendu à la fin de Philippiens chapitre 1. On va parler de citoyenneté ce matin. C'est quelque chose d'important, la citoyenneté. Je parle de la citoyenneté ordinaire pour le moment. Et on va parler de la citoyenneté céleste dont parle Paul dans notre texte. Donc, la citoyenneté, c'est quelque chose d'important, de précieux et de puissant. Au mois d'octobre, on a reçu un rappel assez dur, mais quand même réjouissant aussi de cela. Quand il y a eu cette guerre terrible qui a éclaté entre Israël et le Hamas, parmi les victimes de cette guerre, il y a eu des Canadiens, et ça, c'est très triste. Plusieurs sont morts. Toutefois, la majorité des gens qui avaient la citoyenneté canadienne, qui avaient un passeport canadien quand ils se trouvaient en Israël, ont pu être évacués, grâce en partie aux efforts du gouvernement canadien. Et ça m'avait frappé qu'il y a eu un moment où Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, est allée elle-même en personne pour serrer la main aux Canadiens qui sortaient, qui étaient évacués quand ils étaient à l'aéroport de Tel Aviv. Et si moi j'avais été une de ces personnes, je lui aurais dit, ben wow, merci beaucoup, Madame la ministre. Mais je me serais dit à moi-même, wow, quand même, ma citoyenneté canadienne, ça compte pour quelque chose. Mon pays vient me sauver du danger. Et il y a une touche personnelle aussi dans leur démarche en plus. Alors, évidemment, tout le monde qui est ici, vous avez une citoyenneté et un passeport. C'est sûr qu'il y en a qui sont en démarche pour obtenir la citoyenneté canadienne. Et sachez que l'Oasis, on est là avec vous pour vous soutenir, pour vous aider dans cette démarche qui va parfois vite, mais parfois, ça prend du temps. La citoyenneté donne des privilèges, mais la citoyenneté confère aussi des responsabilités. Par exemple, il faut agir d'une manière conforme à ce que le pays a comme valeur. Il faut autant que possible bien représenter le pays dont on est citoyen quand on est à l'extérieur. Les individus qui veulent devenir des citoyens juste pour les privilèges, mais qui ne veulent pas assumer les responsabilités, bien, ce n'est pas des bons candidats. Je vous le dis tout de suite, il faut que vous assumiez les deux. Et moi, j'ai une question à ceux qui se préparent pour l'examen de citoyenneté. Y a-t-il une valeur canadienne ou une responsabilité qu'on vous a demandé de mémoriser ou d'apprendre qui vous a frappé? Est-ce que quelqu'un aimerait donner un exemple? Qui a dû ou est en train en ce moment de faire des études pour devenir un Canadien? Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. Fait que ma question, vraiment, on va la sauter. Il n'y a personne qui fait d'examen. Moi, j'ai vu Joseph étudier pour son examen. Non? C'est déjà fini? As-tu un souvenir de quelque chose que tu as retenu? qui était important pour un citoyen canadien. Oui. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est deux choses sur lesquelles le Canada insiste beaucoup. On est multiculturel et on croit à l'égalité des droits de tous les citoyens. Amen. Voilà. Mais ça, c'est juste un exemple. Un exemple de qu'est-ce que c'est qu'une citoyenneté terrestre. Et à l'époque de l'apôtre Paul, la citoyenneté romaine, donc si tu étais citoyen de l'Empire romain, c'était quelque chose de très privilégié, qui te conférait beaucoup de droits, et les gens travaillaient fort pour pouvoir l'obtenir. Et il y avait des gens que c'était impossible pour eux de l'obtenir. La ville de Philippe elle-même était particulière. En fait, c'était un endroit où le futur empereur César Auguste avait gagné une bataille militaire avant de devenir citoyen. Et pour fidéliser cette région au nord de la Grèce, il a dit, OK, on va permettre aux anciens combattants de cette victoire d'aller peupler la ville de Philippe et on va donner à tout le monde dans cette ville la citoyenneté romaine. Alors, c'est quelque chose qui était très connu dans la ville de Philippe et même les chrétiens, les premiers chrétiens de Philippe le savaient que le mot « citoyenneté » c'était quelque chose qui avait une valeur, qui était prestigieux dans leur ville. Ce n'était pas le cas dans toutes les villes. On va lire le texte maintenant où Paul utilise cette image de la citoyenneté pour encourager les chrétiens à vivre non seulement leurs privilèges, mais leurs responsabilités par rapport à leur citoyenneté chrétienne, entre guillemets. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, lisons le texte. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous guider dans notre considération de cette exhortation de Paul qui nous dit « Vis ta nouvelle citoyenneté ». C'est ce que Paul dit aux Philippiens, voici, à partir du chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous, et le verbe c'est polyeste en grec, vivez votre citoyenneté. Seulement, vivez votre citoyenneté, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile et sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Pour eux, il parle de leur persévérance, hein? Pour eux, c'est un signe de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a fait la grâce non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous avez vu mener, que vous m'avez vu mener, pardon. N'oubliez pas, il est en prison, hein? Et que vous l'apprenez maintenant, je vis encore. Amen? Je résume ce que j'ai à dire et ce que le texte nous dit comme ceci. Dieu m'a donné une nouvelle citoyenneté d'enfant de Dieu. Hein? Dieu m'a donné une nouvelle citoyenneté d'enfant de Dieu dont je dois être fier. il me demande de profiter des privilèges de cette citoyenneté, donc on pourrait dire du salut en Jésus, mais aussi de vivre pour Jésus, c'est-à-dire de vivre les responsabilités d'être à Jésus dans le monde. OK, je répète. Dieu m'a donné une nouvelle citoyenneté d'enfant de Dieu dont je dois être fier. Il me demande de profiter des privilèges du salut en Jésus, mais aussi de vivre pour lui. Amen? OK. On a beaucoup de privilèges en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui ont reçu tout ce que Christ nous donne. Qui connaît un privilège d'être un enfant de Dieu et qui aimerait le dire à voix haute? Est-ce que tu as un privilège que tu aimerais dire ce matin? Pas une longue phrase, juste le mot. La vie éternelle. Exactement. Le privilège d'être chrétien, on reçoit la vie éternelle. Autre chose?
Héritier.
Du royaume de Dieu. Merveilleux, oui. Autre chose? L'Esprit de Christ qui vit en nous. Quel privilège! Oui. Un avocat qui intercède pour nous. Donc, c'est Jésus qui prie le Père pour nous continuellement. Autre chose? Le pardon de nos péchés. Oui. On est appelé enfant de Dieu et en plus, on l'est. On a été adopté. Justifié. Donc, ça va avec le pardon. Ça, c'est qu'on est déclaré acquitté de nos fautes contre Dieu. Passé, présent, futur. Oui! Prends ton temps. La compassion de Dieu pour nous. Oui. Et j'en passe, parce que notre thème ce matin, c'est de regarder au-delà des privilèges vers les responsabilités. C'est de ça que Paul parle surtout ici. Elles vont avec les privilèges. Dans tout système où les humains sont appelés à vivre ensemble, il y a toujours des privilèges, mais aussi des responsabilités. Les deux vont ensemble et s'enrichissent mutuellement. Et c'est comme ça qu'on bâtit une vie ensemble qui est épanouie. Et la vie chrétienne est composée des deux. Jésus appelle ça la vie abondante. C'est des privilèges qui nous motivent et nous amènent à vivre les responsabilités. Et puis, c'est comme une roue qui tourne et c'est enrichissant. Les responsabilités dont Paul parle ici, il y a surtout vivre d'une manière digne de l'Évangile, ensuite combattre, apprendre à combattre pour ma nouvelle citoyenneté, et troisièmement, apprendre à lire correctement les indices de ma nouvelle citoyenneté. Donc, l'image de notre vie chrétienne ici, c'est la citoyenneté. On a une nouvelle citoyenneté, on doit vivre en fonction. Et donc, la première responsabilité dont je voulais qu'on parle ce matin, vivre d'une manière digne de ma nouvelle citoyenneté. Paul dit, au début de son exhortation, « Conduisez-vous ou vivez votre citoyenneté d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » L'Évangile, c'est le message de la bonne nouvelle de Jésus. C'est tout à propos de Jésus. Donc, on doit apprendre à vivre comme lui a vécu. Et ça, c'est impossible pour toi et pour moi. Et c'est pour ça qu'on doit, comme quelqu'un a dit tantôt, avoir l'Esprit de Christ en nous. On a invité Christ en nous, c'est son Esprit qui va nous donner la force de vivre comme lui. David en avait parlé il y a deux semaines. Dieu, par l'Évangile, nous donne tout ce que Jésus avait à sa disposition en tant qu'humain pour vivre de la même manière que lui. On va vivre des échecs. Et c'est correct aussi, c'est un apprentissage. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous marchons dans cette nouvelle citoyenneté, on peut appeler ça la lumière de Dieu, tout comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, quand je vous dis, votre responsabilité de citoyen des cieux, c'est de marcher comme Christ. Dieu sait à l'avance que vous devez apprendre à marcher comme lui. Puis si vous êtes au début, vous allez faire des erreurs, peut-être souvent, mais ce n'est pas grave. Dieu est là pour que vous alliez vers lui, que vous lui demandiez pardon. Il va vous aider à vous relever, vous allez continuer. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que vivre comme Christ? Wow! Il y a tellement de choses à dire, mais je dirais, la vie de Jésus a été caractérisée par l'amour total dans la vérité totale. C'est comme ça qu'il vivait avec tout le monde. Et ça, ça l'a amené à la croix. Puis, je pense que une manière d'être un représentant de Jésus dans ce monde, de vivre dans l'amour total et la vérité totale, c'est, ça serait d'être des messagers de la croix. Parce que cet amour total dans la vérité totale a amené Jésus à mourir en sacrifice pour chacun de nous. Et nous, on est qui dans le monde? On est tout simplement ceux qui ont compris qu'on avait besoin de ce pardon-là, puis de cet amour-là. Et donc, si nous, on marche humblement, dans la foi, dans l'amour, sur cette terre, en invitant les gens autour de nous, simplement, à venir à la croix, à considérer de demander pardon à Dieu et d'accepter ce que Jésus a fait pour eux, eh bien, on va être dans ce style de vie. Alors que Jésus, lui, a vécu sans péché, nous, c'est plutôt qu'on est des messagers de son sacrifice, de sa croix. Veux-tu être quelqu'un qui vit d'une manière digne de l'Évangile? Bien, deviens un messager de la croix. Pas juste par tes paroles, mais par ta vie, ton attitude. Donc ça, c'est mon premier point. Vis d'une manière digne de ta nouvelle citoyenneté, ta citoyenneté céleste. Mon deuxième point, qui est un point de Paul sur lequel il insiste, apprenez à combattre pour votre nouvelle citoyenneté. Parce que c'est difficile. Il utilise trois termes, trois expressions. Tenir ferme, ensuite combattre ensemble, ensuite ne pas se laisser intimider, qui est comme juste deux mots en grec, mais en français, il y en a cinq. Tenir ferme, combattre ensemble, ne pas se laisser intimider. En fait, ce sont des mots qui, dans cette ancienne langue-là, étaient utilisés pour les sports d'équipe. Pas juste pour les sports d'équipe, aussi la guerre, mais moi, j'aimerais parler d'un sport d'équipe ce matin pour nous aider un peu. Le football. Parlons du football. Mais le football nord-américain, OK? Celui-là. Parce qu'il y a aussi celui-là. Hein, le football des autres. Moi, je voudrais parler du vrai football nord-américain. Alors, je ne sais pas si... Oui. Moi, j'aime beaucoup le football, soccer, aussi. On est mal pris en Amérique du Nord parce qu'on a les deux. Mais j'avais fait des flèches, mais je pense que... Non, je les ai pas. Alors, on voit pas très, très bien ici, mais dans le football canadien ou américain, qui se ressemble, il y a, donc, quand... Voyez-vous les bleus sont en haut, là, de l'image. Les bleus, ils sont en attaque. Ils ont le ballon. Et il y a un gars, un joueur, qui a une ligne offensive. La ligne offensive, c'est comme un... Voyez-vous qu'il y a une ligne de joueurs en bleu? Est-ce que vous la voyez? C'est difficile, mais on la voit. Et tout de suite derrière eux, il y a un joueur qui s'appelle le quart arrière qui a le ballon. Et puis lui, il organise l'attaque. Et c'est son rôle de décider quoi faire pour faire avancer le ballon. Mais moi, je voudrais parler de la ligne offensive qui protège le quart arrière. Et ces gars-là, ou ces femmes-là, parce qu'il y a des femmes, il y a une ligue féminine et plusieurs ligues féminines, ce sont des gars ou des femmes qui en général, il faut qu'ils soient grands, musclés, costauds, et surtout courageux ou courageuses. Et dans mon explication, ils représentent nous, les chrétiens, parce qu'eux doivent protéger le corps arrière contre les mastodontes qui sont en blanc, qui essayent de passer à travers eux pour plaquer le corps arrière à terre. Quand Paul dit « tenez ferme », c'est le verbe pour rester debout. Il faut que ces gars-là, je dis « gars », mais que ces joueurs-là restent debout. Tenir ferme, être capable de rester debout quand on cherche à te faire tomber ou à te pousser. Ça prend de l'entraînement musculaire avant les matchs et du courage et de la détermination pendant le match. Pour nous, les chrétiens, notre force principale, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Et donc, on doit prier chaque jour, on doit s'entraîner à être rempli de l'Esprit parce qu'on va faire face à des attaques qui sont plus fortes que ce que nous, on est capable de résister. Et ce n'est pas compliqué de prier, « Wow, j'ai devant moi un défi qui est plus grand que je suis capable, mais Seigneur, tu es là avec moi, parle-moi et je sais que tu me dis que je vais te donner une solution. » Je vais te donner une manière de combattre et j'y vais par la foi, à ton écoute. C'est comme ça la vie chrétienne. Et un peu à l'image de ces joueurs qui doivent tenir ferme dans un même esprit. C'est ce que Paul dit ici. L'esprit dont il parle, c'est le Saint-Esprit. Mais il va dire aussi qu'il faut qu'ils combattent d'un même cœur. C'est le travail d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. Dans une ligne offensive de football, les Bleus ici, on travaille ensemble. On doit coordonner nos efforts. Puis c'est la même chose dans une famille chrétienne, c'est la même chose dans une église. On doit coordonner nos efforts. Il faut bien communiquer, il faut faire l'effort de communiquer. Demander pardon quand on a offensé. Il faut se faire confiance les uns aux autres. Et il faut se respecter les uns les autres. Avez-vous remarqué dans les interviews sportives, surtout dans les équipes qui gagnent, j'ai remarqué que les joueurs qui se font interviewer, ils n'ont que des éloges pour leurs coéquipiers. Jamais on les entend critiquer leur coach ou leur coéquipier. À plus forte raison, nous, les chrétiens, devons-nous reconnaître les qualités les uns des autres, même publiquement. et renoncer à la critique autant que possible. Il y a une place pour la critique, mais normalement, c'est dans le 1-1 en privé, précédé par la prière et dans un esprit d'amour, avec cette foi que la personne, que ça peut lui être utile. Je crois que c'est vraiment un gros défaut que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'on se critique les uns les autres. Pour moi, c'est une tentation régulière que je vais parler d'une manière d'une sœur ou d'un frère où il n'y a pas assez d'amour et de confiance en elle. Je vous le confesse. Mais la raison que je le confesse, c'est que je sais que le Seigneur m'appelle à une autre façon de vivre, de parler. Nous sommes une équipe gagnante qui n'a que d'éloges les uns pour les autres. Puis, Paul parle aussi d'un troisième aspect. Donc, tenir ferme, combattre ensemble. Hein, nous qui sommes la ligne de protection de notre corps arrière, ne pas se laisser intimider. Et ça aussi, dans le football, c'est très habituel que l'autre équipe va continuellement envoyer des paroles rabaissantes, décourageantes, dévalorisantes à l'autre équipe. Pourquoi pensez-vous qu'ils font ça? Parce qu'ils sont enlignés comme ça, avant que le jeu commence, puis là, ils vont crier des insultes pour dire « Ah, vous êtes des nuls! On va vous écraser! » Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Pour intimider, ben oui. Pour décourager et pour distraire. Si tu étais un coach, qu'est-ce que tu dirais à ton équipe pour les armer à l'avance contre ces paroles-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Sers-toi-en pour te motiver. Oui. Est-ce qu'on a un coach sportif parmi nous? Mais c'est déjà bien, oui. Je ne sais pas si on pourrait dire « ignore ça ». Ignore ça parce que ça va te distraire du rôle que tu dois jouer. C'est la même chose pour nous, les chrétiens. On doit se boucher les oreilles, garder notre objectif. Dans certains pays aujourd'hui, les adversaires de la foi vont intimider les chrétiens par la menace de persécutions concrètes, physiques, des dangers, matériels. Ici, au Québec et au Canada, les adversaires nous menacent d'une autre manière. C'est plutôt avec l'idée que, ton statut social, tu vas le perdre complètement parce que... Tu sais, ta foi, là, c'est mal vu. Ta foi, c'est une perte de temps. Elle va être fatigante pour toi, alors que tu dois performer dans d'autres domaines. Elle va nuire à ton bien-être. Tes convictions sont arriérées et peuvent faire du mal à toi, à ta famille et aussi à la société. Alors, surtout, garder pour toi. Mais à part de ça, on te laisse vivre. Si tu insistes à être chrétien, tu as le droit. Mais voyez-vous, les paroles intimidantes, dans les deux contextes, on doit tenir ferme, lutter en équipe, ne pas nous laisser taire, mais continuer à être ses messagers. C'était le cas des Philippiens. Paul veut qu'ils persévèrent. Et Paul voudrait que nous aussi, on persévère là où nous sommes. Puis, je voudrais rajouter une troisième responsabilité. apprendre à bien lire les indices. Vous avez remarqué que Paul parle que la persévérance des Philippiens, eh bien, c'est un signe de quelque chose. Lorsque nous persévérons dans la vie chrétienne à contre-courant, puis je vois ici une foule de gens qui luttent pour persévérer, et je vous félicite et je dis gloire à Dieu. Bien, Dieu est en train d'envoyer un signal. Un signal d'abord à nous. Dieu nous dit, par notre propre persévérance, parce que c'est lui qui nous a donné la force de le faire jusqu'à présent. Dieu nous dit, « Toi qui me suis, sans te laisser décourager, regarde comment je t'ai béni jusqu'à date. Regarde comment je donne un sens à ta vie. » Les autres n'ont pas ça encore. Continue. C'est un signe de ton salut et un signe qu'eux ont besoin de ce même salut. Dieu envoie ce même signal aux autres. Regarde comment les chrétiens sont pleins d'espoir. Et quand je dis les chrétiens, hein, Jean-François, Tito, John Mary, tu peux mettre ton nom, Sterling, tu peux mettre ton nom. Regarde comment il est plein d'espérance malgré les difficultés qu'il vit. Toi, si tu acceptes de changer de voie et de te joindre à eux, tu pourras aussi avoir cette bénédiction. Arrivé, quand j'avais environ 18 ans, et il y avait une rencontre sociale de mon groupe d'amis, mais d'avant que je donne ma vie à Christ. Et c'était un bon moment, mais j'étais, autant que je le sache, j'étais le seul chrétien dans le groupe. Et une de mes amies est venue vers moi, puis elle a commencé à me poser des questions sur ma foi. Et elle m'a dit, bien, notre groupe, là, Marc, ils ont remarqué que tu as vraiment changé. Mais je dois dire que tout le monde attend que tu te réveilles. Ils attendent le déclic où tu vas t'en sortir. Donc, c'est comme... Ça m'avait surpris, mais j'ai compris. Elle a pensé que j'étais comme hypnotisé, puis qu'à un moment donné, il allait avoir un clic, puis j'allais me réveiller de mon hypnose, de ma sainte hypnose, puis que j'allais redevenir comme avant. Et elle l'a dit avec un ton gentil. Elle voulait m'informer de la réalité des choses, mais sur le coup, j'avais trouvé ça intimidant, déstabilisant. Mais Dieu m'a gardé en lui, et ça fait 45 ans que je suis encore dans mon hypnose. Et c'est par la grâce de Dieu. Quand je regarde en arrière, je vois que par cette persévérance que Dieu m'a permis d'avoir, que Dieu m'a donné, il m'a comblé de richesses, non à la manière du monde, mais la sienne, qui est encore meilleure. Et bon, je remercie Dieu, mais je prie aussi pour les mêmes amis avec qui je suis encore en contact, qu'ils puissent, avec l'aide de Dieu, lire les indices aussi et se dire, « Hey, Marc, c'est un gars bien ordinaire, mais wow, ce qui est arrivé dans sa vie, j'en ai peut-être besoin moi aussi. Hein? » Parce que la vie est difficile. Il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Et je suis là pour continuer à leur parler qu'il y a une nouvelle citoyenneté qu'ils peuvent avoir. Est-ce que tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais juste dire que c'est une personne qui est tellement
difficile. Que tu vis des choses difficiles. Oui.
Je pense qu'on vit tous des choses difficiles.
Oui, Francis. Et est-ce que tu dirais que tu es en train d'apprendre à vivre dans l'espérance de Jésus à travers tes difficultés?
Je crois, oui.
Tu crois, oui. On est là pour t'aider. Et on est fiers de toi. Amen. Ouais. Bon, on va conclure. Dieu m'a donné une nouvelle citoyenneté céleste. Et il m'appelle à en être fier et à profiter des privilèges, oui, mais de vivre aussi les responsabilités. Parce que c'est ça, la vie abondante. Vivre d'une manière digne de l'Évangile. Apprendre à combattre. Apprendre à lire les saints dits. Que ma citoyenneté, elle est forte, elle est précieuse. Et comme j'ai dit, on n'est pas, je pense pour la plupart d'entre nous, face à des persécutions physiques où on va être jeté en prison pour notre foi. Je parle au Québec actuellement. Bien que peut-être certains d'entre vous font face à des décisions où il y aura des conséquences matérielles réelles de votre choix de suivre Christ. Pour beaucoup d'entre nous, je dirais, bien, en fait, pour nous tous, c'est plutôt d'autres tentations de ralentir qui nous guettent. Moi, je réfléchissais à ça, que c'est de... On nous demande de diminuer notre engagement, diminuer notre zèle, parce que ce n'est pas réaliste dans le monde d'aujourd'hui. Le monde où l'argent, où le droit au divertissement, l'attraction du confort, ce sont les grandes priorités. Donc, on va nous dire, et je me dis à moi-même aussi, avec le froid de l'hiver qui s'en vient, et donc le plus grand effort qui est nécessaire pour me déplacer, pour venir à l'Oasis, par exemple, bien, c'est correct de venir moins souvent. Et évidemment, si tu as des problèmes de transport, on ne va pas te juger. Mais moi, je parle un peu des raisonnements. J'ai le droit de venir moins souvent parce que ça me demande plus d'efforts. Hein, la noirceur et la fatigue dans les soirées, dans les matinées aussi. Hein? Peut-être que c'est un empêchement pour certains, mais c'est aussi une occasion de dire, « Hey, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais vivre ma citoyenneté en allant pareil. » Il y a peut-être aussi dans ce temps de Noël l'impulsion de dépenses sur mon plaisir personnel qui sont peut-être excessives. Et peut-être que le Saint-Esprit va te dire, bien, garde un peu d'argent que tu aurais dépensé sur ton plaisir personnel pour quelque chose d'autre que je vais t'indiquer. Comme j'ai dit tantôt, il y a cette tentation de parler en mal de mon Église, de parler en mal d'un frère, ou même de penser en mal de lui ou d'elle. Renonçons à cela. Et puis, ce qui est parfois difficile aussi, c'est que on a tous des familles de sang. Et quel bonheur de pouvoir passer du temps avec eux. Et n'oublions pas que notre citoyenneté céleste nous rappelle qu'on a une nouvelle famille céleste. Puis avec ce monde-là, c'est-à-dire vous, on va passer l'éternité. Alors, là aussi, il y a des choix parfois difficiles où on va être sous pression de laisser tomber la nouvelle famille céleste pour la famille de sang. Chacun fait ses propres choix. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Alors, on va arrêter là-dessus. On va prier maintenant. vivons notre nouvelle citoyenneté. On a besoin de l'aide de Jésus pour faire ça. Amen. On a besoin de sa force. Oui. Et une bonne manière de se tourner vers lui, c'est le repas auquel il nous invite, la Sainte Cène. Et donc, préparons nos cœurs pour lui demander de venir nourrir et fortifier notre foi avec cette période de Noël qui commence. On va prier et après, je vais vous donner un moment pour vous saluer les uns les autres. Et peut-être, je vous envoie une petite suggestion. Restez sensible. Peut-être que la personne que vous allez saluer, vous pourriez peut-être lui demander, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste une suggestion. Aimerais-tu que je t'appelle pour te dire bonjour cette semaine? Puis si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Alors, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas profiter pour entrer en contact un petit peu plus avec la personne que tu salues. Par contre, si quelqu'un porte un masque ce matin, prière de juste garder une distance parce que on veut respecter, peut-être la personne est malade ou ne veut pas tomber malade. Et tu peux aussi dire, voilà, je garde mes distances aujourd'hui et prière de nous respecter les uns les autres. Mais ceux qui veulent se donner des câlins, vous pouvez le faire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui met la barre haute pour chacun de nous. Mais qui nous rappelle aussi toute la richesse de ce que tu nous donnes par cette nouvelle citoyenneté d'être tes enfants. Et on est comme dans un pays étranger avec notre passeport céleste et c'est parfois difficile de bien représenter notre passeport. Et souvent, on le représente mal. Puis, le repas qu'on va célébrer, que tu nous as donné, Jésus, nous rappelle. Vous avez besoin de moi pour vivre cette nouvelle citoyenneté. Vous avez besoin de moi, puis j'aime ça. J'aime ça parce que je veux marcher avec toi. Je veux t'apprendre à vivre comme moi. Je veux t'apprendre à dépendre de moi. Alors, prépare nos cœurs et pardonne-nous beaucoup d'amour les uns pour les autres. Donne-nous, Père, de voir c'est quoi qui ne va pas avec le problème auquel je fais face. Je suis dérangé intérieurement, mais il y a peut-être quelque chose que c'est ma perspective qui doit changer. Aide-moi. Aide-moi à accepter, aide-moi à comprendre. Nous prions au nom de Christ. Amen.